Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
L'histoire de la régie Renault commence à Boulogne-Billancourt tout simplement parce que la famille Renault y possède une maison. L'atelier Louis Renault existe toujours. C'est là qu'amateur, il construit de ses mains sa première voiture. Il en fabrique tous les éléments, sauf le moteur, un De Dion Bouton de 3 chevaux.
Dans l'imaginaire collectif, il y a des usines devenues mythiques qui ont marqué l'histoire, comme les usines Renault de Billancourt qu'il ne fallait pas désespérer, comme celle de Michelin à Clermont-Ferrand, de Peugeot à Montbéliard, de Legrand à Limoges ou encore de Schneider au Creusot. Certains sites sont plus récents mais n'en sont pas moins emblématiques, à l'image de l'usine Smart d'Ambar, qui se demande si elle verra un jour ses 25 ans et si oui, dans quel état. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va s'interroger sur l'avenir de cette usine de l'Est de la France, devenue un symbole, Smartville.
Depuis 1998, nos 1800 coéquipiers motivés et engagés ont œuvré à la construction de la Smart Fortwo pour le monde entier, selon un principe de production aussi innovant que la voiture elle-même.
Le 1er juillet 1998 sort de l'usine d'Ambar en Moselle la première Smart, un drôle de véhicule imaginé à l'origine par un fabricant de montres, Nicolas Hayek, célèbre patron du groupe suisse Swatch. Voiture emblématique du citadin pressé de se garer, la Swatch Mobile prend vite le nom de Smart. Il va s'en vendre 21 000 la première année, 80 000 la suivante, avant que la compagnie n'enregistre un rythme de croisière d'environ 120 000 véhicules par an. Au total, plus de 2,5 millions de Smart sillonnent les routes, principalement de France, d'Allemagne, de Grande-Bretagne, mais aussi des États-Unis, de la Chine et même de Russie. On n'appelle pas cela un avertisseur pour rien. Il y a un an, la direction décidait de stopper la production des Smart à Ambar. Un an plus tard, une autre nouvelle va secouer les 1600 salariés de l'usine. Daimler Mercedes annonce que Smartville est en vente. Bonjour Pascal Braun.
Bonjour.
Vous êtes correspondante des Échos en Moselle. Cette annonce a provoqué un choc à Ambar.
Ah oui, vraiment. Un véritable choc parce que pour une fois, personne n'avait rien vu venir. Il y a eu beaucoup de surprises, des bonnes nouvelles, des mauvaises, mais à chaque fois, elles étaient un petit peu pressenties. Cette fois, vraiment, quand la Smart, Daimler a annoncé qu'elle mettait le site de la Smart en vente, alors même qu'elle avait annoncé un investissement de 500 millions d'euros fin 2018 et qu'elle l'avait pratiquement terminé, ça, vraiment, personne ne s'y attendait.
Personne ne s'y attendait. Et la décision du groupe allemand n'a pas manqué de surprendre aussi Jan Fetz, spécialiste de l'automobile aux Échos.
On savait que la production de la Smart en Moselle devait s'arrêter en 2022. Daimler, son propriétaire, avait annoncé en 2018 la création d'une société commune avec le chinois Geely pour la fabrication des Smart. Et il avait annoncé à ce moment-là qu'elle serait assemblée en Chine après cette date de 2022. Mais à ce moment-là, il avait promis qu'elle serait remplacée en Moselle par des Mercedes. Il avait annoncé en mai 2018 un investissement de 500 millions d'euros, ce qui n'est pas rien, pour fabriquer dans l'usine d'Ambar une Mercedes électrique. Ça devait être le SUV classe A en version électrique. Ils avaient prévu d'en assembler en Moselle 30 000 dans un premier temps. Ils avaient même déjà commencé à investir et à réaménager l'usine. Alors oui, on peut dire que ça a été une vraie surprise. C'est un vrai coup dur pour l'auto en France.
Pourquoi est-ce que Mercedes-Benz se décide à se séparer de cette usine ?
En fait, c'est une petite usine comparée aux méga-usines du groupe en Allemagne. Et Daimler a toujours eu du mal à la rentabiliser. Il ne faut pas oublier que la France, c'est un pays où les coûts de production sont élevés. Il y a la main-d'œuvre, les charges, les taxes. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus que des grosses voitures ou des véhicules utilitaires qui sont produits en France. Alors la Smart, c'est une voiture qui est vendue assez cher pour une petite voiture. Donc avec assez de volume, ça aurait pu passer. Mais en fait, les ventes n'ont jamais été suffisantes. Le maximum des ventes, c'était 150 000 en 2004. En 2019, elles étaient tombées à 117 000. Et surtout, l'usine de Moselle ne produisait plus depuis plusieurs années que la Smart Fortwo, le petit modèle à deux places. Daimler n'a jamais donné de détails, mais en fait, les analystes financiers estiment qu'ils perdent entre 500 et 700 millions d'euros par an avec la Smart. Donc, ça fait des milliards d'euros engloutis dans l'aventure depuis son lancement en 1994. Donc, c'est aussi pour ça que Daimler avait décidé d'abandonner les moteurs thermiques pour passer au 100% électrique et ensuite de les faire fabriquer en Chine. Puis là-dessus, il y a eu la crise du coronavirus avec 2 mois de fermeture des usines et des concessions. Donc, ça a été le coup de grâce. Ça veut dire 2 mois de revenus en moins, alors qu'il faut continuer à investir par ailleurs dans la voiture du futur, la voiture électrique est connectée au niveau du groupe. Donc ça a précipité la décision de Daimler d'abandonner le projet de transférer des Mercedes et donc de vendre l'usine.
Alors, on appelle cette usine Smartville, l'usine du groupe. C'était un projet novateur à l'origine ?
Alors oui, l'usine avait ouvert en 1997 avec des méthodes de pointe à l'époque. Ils avaient demandé à leurs fournisseurs de s'installer sur place. Et ils avaient mis en place une organisation originale avec des bâtiments en forme de croix, ce qui permettait à chacun d'apporter directement les sous-ensembles qu'ils fabriquaient sur la ligne d'assemblage. Donc à l'époque, c'était assez révolutionnaire et ça avait permis de générer pas mal de gains sur la logistique et sur la qualité aussi.
Ah bah la menace, elle est dans les journaux. Ils disent que si jamais ça aboutit pas, ils peuvent fermer le site. En même temps, il y a 3 jours en réunion, il y a une semaine en réunion, ils nous disaient tout le contraire. Ils disaient que dans tous les cas, on fermerait jamais le site. Donc vous voyez, la pression commence. On était une usine du groupe, on a toujours été une usine du groupe. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'est plus grand-chose pour eux.
Emmanuel Benner est délégué syndical CFTC chez Smart. Il était interrogé sur RTL cet été entre colère et amertume. Pascal Braun, que représente l'usine pour les Mosellans ?
C'est une fierté parce que c'est un site qui a quand même été inauguré en grande pompe par Helmut Kohl et Jacques Chirac en 1997, parce que ça a donné beaucoup de visibilité à l'Est Mosellan sur le plan national. C'est peut-être tout particulièrement une fierté pour Sarreguemines. Pour revenir un petit peu sur l'histoire du bassin houiller, Sarreguemines donc est en lisière du bassin houiller de Forbach, Framay-Merlebach, le haut lieu d'extraction du charbon. Sarreguemines donc se trouve en lisière de ce bassin et n'était pas peu fier d'avoir réussi une forte diversification, notamment en décrochant la Smart.
L'usine, est-ce que c'est aussi, vous parliez de Chirac et d'Helmut Kohl, est-ce que c'est aussi un symbole finalement de cette construction européenne et de ce rapprochement franco-allemand ?
Vu de Paris, peut-être. Localement, sans doute moins, parce que les investisseurs allemands sont présents depuis très longtemps. Ils ont justement joué un rôle important dans la reconversion du bassin houiller dans les années 70, puis à la fin des années 80. Ce n'est pas un symbole, c'est une réalité. Par exemple, une centaine de salariés de Smart travaillent régulièrement, quotidiennement en Allemagne. L'usine Mercedes la plus proche, qui est quand même à 130 km, ça fait faire 2 heures de route tous les matins. Enfin, voilà, donc on est vraiment à la frontière allemande. C'est une réalité, c'est un quotidien de transfrontalier dans cette région.
Au centre, le Cairn, se trouve le contrôle qualité et l'administration. Et n'oublions pas, le restaurant d'entreprise.
Dans cette vidéo de présentation du groupe, on comprend l'organisation industrielle mise en place dans cette petite structure en forme de croix. N'oublions pas qu'à l'origine, il y avait le groupe horloger suisse Swatch qui a revendu ses parts à Mercedes en 1998. L'usine était conçue comme un lieu unique, une usine mythique qui regroupait sur un même site les différents sous-traitants dans une logique de juste-à-temps, sans oublier son restaurant d'entreprise qui faisait visiblement des gâteaux en forme de Smart. C'était le symbole d'un certain état d'esprit, Pascal ?
Si on veut, c'est un symbole de ce qu'on appelle Smartville, à savoir ce village des sous-traitants assemblés autour du donneur d'ordre. C'est vrai que c'est un modèle industriel tout à fait inédit à l'époque, qui d'ailleurs, à ma connaissance, n'a jamais été repris. L'image dont vous parlez évoque une forme de convivialité, de solidarité. Je pense qu'en y regardant de plus près, il y a toujours eu entre Smart et ses sous-traitants, eh bien, ma foi, des rapports de donneur d'ordre à sous-traitants, les statuts, les conditions de travail n'étaient pas vraiment les mêmes. Et s'il y a eu globalement très peu de grèves à Smart France, il y en a eu beaucoup plus parmi les sous-traitants. Et aujourd'hui, les 700 salariés, les sous-traitants ont obtenu la possibilité d'intégrer Daimler, mais seuls 600 d'entre eux l'ont signé et il reste donc 300 personnes qui n'ont pas fait le choix de rejoindre Daimler et l'intersyndicale compte bien se battre pour assurer l'emploi de tous les salariés du site.
Justement, quel est le sentiment qui domine aujourd'hui parmi les salariés de l'usine, mais aussi parmi la population ?
Parmi les salariés de l'usine, clairement, on est dans l'amertume, la colère, une forme de rancune, tempérée peut-être par une forme de prudence. Il ne faut surtout pas injurier l'avenir et ce n'est certainement pas le moment d'engager des conflits sociaux durs. Donc, l'état d'esprit se traduit par exemple par la grève des samedis, juste après avoir annoncé en début d'été que le site d'Ambar était en vente. Smart a demandé donc à cette rentrée aux salariés d'accélérer les cadences, d'accélérer la production et de travailler le samedi. Et là, pour le coup, c'était peut-être un peu beaucoup demandé à des salariés inquiets et mécontents qui ont lancé une campagne de boycott du travail le samedi pour tout le mois de septembre pour l'instant. Voilà, donc ça, c'est au niveau des salariés, donc de la colère, de l'inquiétude. En ce qui concerne la population, ben, ma foi, les collectivités ont beaucoup soutenu Smart à toutes ces étapes et c'est rien de dire qu'ils sont très, très attentifs à ce dossier. Cela étant, comme je vous le disais tout à l'heure, Sargomine est très fière de sa vocation industrielle, fière d'avoir su attirer en son temps la Smart grâce à d'énormes investissements. À l'époque, la communauté d'agglomération avait investi 140 millions de francs pour pouvoir proposer à un investisseur un site clé en main, si d'aventure il en avait besoin. Ça, c'était sur l'Europôle 1, où est implantée la Smart, mais pas seulement la Smart. L'intercommunalité, qui s'appelle maintenant la CASC, Communauté d'agglomération Sargomine-Confluence, a réitéré ce pari avec l'Europôle 2 et a bon espoir de voir, d'ici à la fin de l'année, s'implanter un nouvel investisseur qui serait un fabricant de panneaux photovoltaïques norvégien avec à la clé un très gros investissement et peut-être des milliers d'emplois. On ne peut pas dire que dans le bassin, on soit dans un contexte de désespérance. On a le sentiment d'avoir été trahi par Daimler.
Trahi par Daimler, expliquait Pascal Brand. Depuis l'annonce, les 1600 ouvriers du site se mobilisent et manifestent, notamment le samedi. Leur colère est d'autant plus forte qu'en 2015, ils avaient accepté un sacrifice. Travailler plus, sans gagner plus, comme on l'entend dans ce reportage de France 2.
Ces salariés débutent une semaine plus longue que les autres. La plupart d'entre eux travailleront maintenant jusqu'à tard le soir ou le samedi.
On n'a pas le choix, désolé.
Il faut faire un effort, quoi. De nos jours, c'est comme ça.
On l'a fait, on a signé un avenant et puis voilà.
Et ça dérange pas 2 heures de plus sans être payé quand même.
Qu'est-ce que vous voulez faire ? Il faut bien travailler.
Anne, le site Smart d'Ambar était aussi symbolique par les efforts faits par les salariés pour préserver l'emploi sur le site.
Oui, ça avait fait pas mal de bruit à l'époque. En fait, les dirigeants de l'usine avaient expliqué aux salariés qu'il y avait un projet de transférer la production de Smart en Slovénie et que pour éviter ça, ils devraient travailler 39 heures au lieu de 37 comme avant, et ça sans modification de salaire. En contrepartie, Smart France s'engageait à préserver l'emploi jusqu'en 2020. Alors, ça avait fait tout un tollé, les syndicats s'étaient divisés, les politiques s'en étaient mêlés. Ensuite, il y a eu un référendum qui avait été approuvé par 56% des salariés, mais c'était surtout des cadres et des techniciens. Alors, il y a eu une autre polémique à ce sujet-là, en disant que les ouvriers n'avaient pas voté pour. Puis finalement, 90% des 800 salariés du site à l'époque ont signé l'avenant à leur contrat de travail. Donc, ça a permis de préserver l'emploi jusqu'à 2020, effectivement. Mais l'affaire a quand même laissé des traces.
Il s'agit d'un site symbolique de la relation industrielle franco-allemande. Ses salariés ont toujours favorisé le dialogue social pour garantir la compétitivité de leur usine. Daimler doit garder toutes les options ouvertes, y compris celle de conserver le site. Voilà ce qu'avait dit Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, après cette annonce. Alors justement, Anne, quel avenir pour le site ? Est-ce qu'il y a des repreneurs potentiels ?
C'est toute la question du moment. Pour l'instant, il y a un repreneur qui s'est manifesté, c'est le groupe pétrochimique Ineos, d'un milliardaire britannique qui s'appelle Jim Ratcliffe, et qui veut se lancer dans l'automobile. Il a annoncé qu'il voulait lancer un 4x4 qui s'appellera le Grenadier. Et pour lui, racheter cette usine, c'est très intéressant parce que tout simplement, ça lui évite d'avoir à en construire une en partant de zéro. Alors, il y a des négociations en cours. Le gouvernement suit aussi le dossier de très près. D'après ce qui a été dit au syndicat, Daimler aurait déjà fait des concessions en acceptant de décaler de 2 ans la fermeture de la ligne de production des Smart, donc à 2024. Après, toute la question, c'est combien d'emplois seront préservés sur le site. Aujourd'hui, il y a 900 salariés chez Smart et 700 chez les sous-traitants. Le projet d'Ineos permettrait, lui, d'occuper 700 personnes à peu près. Et Mercedes mettrait aussi une petite activité qui en occuperait 65. Donc après, pour les autres, c'est un peu la question. Daimler a pris des engagements vis-à-vis de 1300 personnes après 2024, à qui il pourrait proposer aussi des sites ailleurs dans le groupe, y compris en Allemagne. Sinon, ils ont parlé de rupture conventionnelle. Enfin, pour l'instant, on ne sait pas trop. Tout ça est encore en pleine négociation.
Fin août, le groupe Ineos se disait confiant sur le rachat de l'usine Smart pour y fabriquer son futur 4x4 grenadier. Il évoquait des discussions avancées et espérait conclure la reprise avant la fin de l'année. Ce sera le premier véhicule fabriqué par le groupe britannique, un véhicule qui s'inspire d'un Land Rover et qui s'adressera plutôt à un public de professionnels. L'idée du groupe est de proposer un 4x4 traditionnel à l'opposé des SUV qui dominent le marché automobile, à l'opposé aussi du projet de Daimler qui était d'y fabriquer des véhicules électriques. C'est dire si la réussite à long terme de ce projet industriel d'Ineos n'est pas assurée. En attendant, le gouvernement a donné son blanc-seing à ce projet de reprise. « Il paraît de bonne tenue », a déclaré il y a une semaine Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'industrie, dans un entretien au Républicain Lorrain, précisant que son ministère avait sollicité d'autres repreneurs potentiels qui n'ont pas donné suite. La ministre qui assure par ailleurs maintenir la pression sur Daimler. Mais à peine un dossier se referme, un autre s'ouvre, alors que le gouvernement est confronté au projet de fermeture de l'usine Bridgestone de Béthune avec près de 900 postes dans la balance, un autre site symbolique installé sur la commune depuis 1961, un signe de plus de la lente désindustrialisation de la France, mais surtout du malaise qui traverse le secteur automobile européen avec cette crise du coronavirus. Anne, est-ce qu'il faut craindre d'autres fermetures ?
C'est sûr que la crise actuelle, la crise sanitaire, est assez violente, mais les mesures de chômage partiel ont permis d'amortir pas mal le choc. Donc si les ventes repartent et que les usines se remettent à bien tourner, on pourra sans doute éviter les fermetures, en tout cas chez les constructeurs. Après, dans le secteur, il y a aussi les équipementiers, et là c'est moins sûr, il y en a qui ont vraiment beaucoup souffert. Bon, il y a aussi le plan d'économie de Renault, mais qui n'est pas vraiment lié à la crise sanitaire. Les difficultés de Renault datent d'avant. Et là, oui, le groupe prévoit de fermer des sites. Ils ont déjà cité Choisy-le-Roi. Il y a d'autres usines qui sont un peu sur la sellette. Le groupe a annoncé 4600 suppressions de postes en France. Donc, on verra. Mais c'est sûr que l'industrie auto a connu des jours meilleurs.
Merci Anne Fetz, journaliste aux Échos, et Pascal Brand, correspondante du journal en Moselle. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.